France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Alors que Donald Trump multiplie les déclarations contradictoires sur une éventuelle intervention états-unienne en Iran, la question de l'impact qu'une telle opération pourrait avoir se pose de façon à la fois immédiate et brûlante. Si Jacques Chirac soutenait qu'on n'exporte pas la démocratie dans des fourgons blindés, faut-il pour autant renoncer à défendre militairement des peuples insurgés ? Ce dilemme revient à s'interroger sur les différentes guerres entreprises par des puissances occidentales au nom de la démocratie. De la Bosnie à l'Afghanistan, en passant par l'Irak, la Libye et peut-être le Venezuela, les guerres dites d'ingérence ont-elles été des preuves d'universalisme ou les paravents modernes du néocolonialisme ? Faut-il, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, vouloir faire tomber les tyrans par la force des bombes ou bien, invoquant l'exigence d'équilibre, renoncer à interférer sur le destin de puissances souveraines ? Interventionnisme militaire, peut-on faire la démocratie par la guerre ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés aux côtés de l'écrivain J. Herzog, de la journaliste Catherine Tricot et de la politiste Laurence Nardon.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Laurence Nardon.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, responsable du programme Amérique de l'Institut français des relations internationales. Bonjour Catherine Tricot.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la revue Regard et bonjour Gilles Herzog.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueur, compagnon d'aventure, on va aussi en parler puisque c'est le sujet de l'émission de Bernard-Henri Lévy dans ses engagements internationaux. Et je cite votre dernier livre, le dernier des Vénitiens chez Grasset, trois regards différents sur la question de l'interventionnisme militaire. J'évoquais en introduction les déclarations contradictoires de Donald Trump sur l'Iran, et juste avant d'en débattre, je vous propose de l'écouter le 10 janvier dernier.
L'Iran a de très gros problèmes. Je constate que le peuple prend le contrôle de certaines villes et personne ne pensait cela possible il y a encore quelques semaines. Nous surveillons la situation de très près, mais j'ai été très clair sur le fait que s'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, nous frapperons là où ça fait mal. Ça ne veut pas dire que nos soldats seront sur le sol iranien, mais on frappera sur des lieux stratégiques. J'espère que les manifestants vont se trouver en sécurité, car l'Iran est un pays très dangereux en ce moment. Et je répète aux dirigeants iraniens, vous ne devriez pas commencer à tirer, parce que nous commencerons à tirer aussi.
Catherine Tricot, est-ce que avec cette possible intervention, enfin on ne sait pas trop, américaine en Iran, nous assistons à un retour de cet interventionnisme, de l'ingérence ?
Alors déjà, je dirais que j'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, dès que le régime a dit « on ne tuera pas », il a dit « ah bah oui, bah super, il ne tue pas », donc fin de l'histoire. Donc je ne crois pas du tout à ces menaces. Et d'ailleurs, dans le document stratégique américain, l'Iran n'apparaît pas en bonne place. Donc ils ont plutôt même tendance à vouloir se retirer du Proche et du Moyen-Orient. Donc déjà, je relativiserai le sujet. Mais plus fondamentalement, pour la discussion qui nous occupe, la lutte des Iraniens ne vient pas de commencer. Alors lui, il dit que depuis quelques semaines, non, pas du tout. Au moins depuis 2009. Enfin, déjà, le renversement du Shah a été l'objet d'un mouvement révolutionnaire extrêmement puissant de la société iranienne et qui s'est retourné de façon absolument catastrophique et qui fait que beaucoup d'entre eux le regrettent, enfin regrettent l'évolution. Mais en tout cas, depuis 2009, pratiquement tous les 4 ans, 5 ans, il y a des mouvements de masse extrêmement puissants et qui vont crescendo, avec notamment il y a 3 ans le mouvement Femme, Vie, Liberté et le mouvement actuel. Et je crois que la vérité, c'est que ce régime va tomber et va être mis en cause par les Iraniens. Et je ne crois pas qu'il soit bon de laisser entendre que c'est les Américains qui vont faire tomber ce régime. Que nous puissions intervenir pour affaiblir le régime, je le crois. Je crois que, par exemple, c'était ce qui s'était passé quand on a combattu, la communauté internationale a combattu l'apartheid. Mais c'est bien en Afrique du Sud, et c'est bien les militants anti-apartheid qui ont gagné la fin du régime d'apartheid. Et c'est donc les Iraniens qui vont gagner leur libération. Et j'aime à reprendre le slogan des féministes qui disent « Ne me libère pas, je m'en charge ».
Premier désaccord peut-être, Gilles Herzog, je crois que vous désirez cette intervention américaine, mais surtout que vous pensez qu'elle est nécessaire.
Je suis assez en désaccord avec vous. Je pense que les peuples, à part l'Afrique du Sud, mais parce qu'il y avait une minorité blanche libérale, Mais les peuples sous la botte des autocrates, ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Il faut une aide extérieure. Tout simplement, la démonstration en est faite en Iran. Ça, à plusieurs reprises, en effet, le peuple s'est soulevé, est descendu dans la rue au prix de pertes énormes, sanglantes, et il s'est retombé sous les coups de la répression parce qu'il n'y avait pas de soutien extérieur. Sans soutien extérieur, les peuples ne peuvent pas, sauf exception rarissime, ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Donc, l'intervention trumpiste, évidemment, je ne crois pas que sur le plan militaire ce soit possible, parce qu'on ne libère pas un pays juste avec de l'aviation en bombardant les sites stratégiques. Il faut être sur le sol, et les Américains ne veulent pas être sur le sol. No boots on the ground. Mais je ne pense pas que les Iraniens puissent se libérer des Pasdaran et du régime des Mollahs par eux-mêmes. Ça, alors vraiment, je suis convaincu, l'histoire est absolument claire à cet égard.
Je crois le contraire. L'histoire est claire dans le sens inverse. La libération du colonialisme, c'est pas faite autrement que par les peuples colonisés, par exemple.
Avec le soutien des Occidentaux éclairés.
Laurence Nardon, est-ce que vous tranchez ce désaccord ?
Je me garderais bien de trancher ce désaccord qui m'a l'air assez installé. Mais il y a une troisième étape, c'est-à-dire est-ce qu'on intervient pas pour aider les combattants de la liberté en Iran ? Ça, c'est effectivement le débat que vous avez. Et j'ajouterais un autre aspect qui est qu'une fois qu'une aide extérieure ou les peuples eux-mêmes, enfin en tout cas... Parlons des interventions américaines. Une fois qu'elles ont eu lieu, on a bien vu dans les années passées que, en effet, vous avez tout à fait raison, il ne suffisait pas de bombarder et les forces militaires, et même les boots on the ground ne suffisaient pas à établir la démocratie. C'est ce qu'on a vu en Irak, puisque...
Et en Afghanistan
encore plus, la formation à la démocratie prend des années, prend énormément d'efforts, et ça n'a pas marché dans le cas de l'Afghanistan, ça n'a pas marché dans le cas de l'Irak. Est-ce que ça marcherait dans le cas de l'Iran ? Il s'agit d'une population extrêmement éduquée, qui a peut-être plus de chances d'y arriver, mais c'est quand même extrêmement hasardeux. Les Américains ne nous ont pas, dans les décennies récentes, montré une grande capacité à organiser un passage à la démocratie.
C'est le cadet des soucis de monsieur Trump.
Tout à fait. Mais ça n'était pas le cadet des soucis de monsieur Bush à l'époque pour l'Irak et l'Afghanistan. Il y avait un vrai projet d'installer la démocratie qui s'est avéré un échec, parce que peut-être qu'ils étaient trop naïfs, peut-être plutôt qu'ils étaient extrêmement mal préparés.
Appelait les néocons.
Oui, on va certainement en reparler tout à l'heure.
Justement, on va reparler tout à l'heure, quand on va faire la généalogie de ce concept de la guerre d'ingérence, de la doctrine néoconservatrice. Mais si on devait définir la doctrine en la matière de Donald Trump, j'ai l'impression que c'est un exercice très périlleux. Il y a le dossier iranien, il y a un autre pays où Donald Trump a montré que son interventionnisme était peut-être un peu différent de celui qui existait à l'époque de Bush et de Bush d'ailleurs, c'est le dossier du Venezuela avec cette opération militaire pour exfiltrer, arrêter, enlever le président Maduro. Catherine Tricot, comment vous définiriez les modalités de cet interventionnisme ?
Comme il le fait lui-même. America First, et America First, c'est les intérêts américains entendus par Donald Trump, c'est-à-dire les intérêts des grands groupes américains. C'est de cela dont il s'agit. Donald Trump n'a pas prononcé une seule fois le mot démocratie quand il a parlé de l'intervention au Venezuela. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est aux États-Unis, il considère qu'il faut, et il a probablement raison que la question de l'énergie est une question cruciale, stratégique, et donc il veut le pétrole du Venezuela, et donc il a décidé qu'il allait prendre le pétrole du Venezuela. C'est-à-dire que, et de la même manière que au Groenland, il veut les richesses du sous-sol, il veut l'eau du Groenland pour pouvoir faire tout son développement de l'IA qui est hyper consommatrice en eau, et donc il veut le prendre. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment... je crois qu'on a changé de registre. Je crois que les néoconservateurs parlaient de démocratie et ils avaient une conception de la démocratie qui était toujours articulée avec le libéralisme politique et économique, il n'a jamais été question d'installer un régime de gauche dans aucune de ses interventions. Il était toujours question de mettre des régimes libéraux qui allaient promouvoir le libre marché, la concurrence, toutes les idées néolibérales en même temps qu'elles portées par les néoconservateurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une articulation entre la pensée politique et la pensée économique au temps des néoconservateurs. Mais il y avait une dimension politique. Aujourd'hui, il n'en est plus question. La seule question qui occupe Donald Trump, c'est la prédation des besoins, des ressources pour le développement de l'économie américaine, des GAFAM, des industries pétrolières, de l'industrie qu'il veut voir revenir. C'est ça, uniquement ça, sa préoccupation.
Gilles Herzog, à ce sujet, vous avez écrit un article dans La Règle du Jeu récemment, le 9 janvier dernier, et j'ai oublié de préciser pour les auditeurs, mais je me dois de le dire, que c'est aussi la revue dans laquelle j'écris, ce qui ne m'empêche pas, je crois, je le montre, d'avoir mon rôle de questionneur avec neutralité. Mais donc vous écriviez aujourd'hui un nouveau droit. Hier, dans les limbes au Koweït et en Irak, s'affirme au grand jour, sans phare, sans peur et sans reproche, le droit d'ingérence pétrolière, nom et lieu éponyme de ce droit, le Venezuela. Quelle est la différence entre ce droit d'ingérence humanitaire, old school, et le droit d'ingérence pétrolière, selon vous ?
Le concept classique, si on peut dire, depuis 60 ans, depuis que le droit d'ingérence a été inventé au moment de la guerre du Biafra par Kouchner, c'était un droit progressiste. C'était une conception progressiste de la gestion de la communauté internationale pour les peuples, en faveur des peuples opprimés par leur propre gouvernement. Et ce droit d'ingérence, donc, au début, c'est chaotique, a fini par prévaloir dans les années 2000 et est devenu une très belle référence. Et puis, on assiste aujourd'hui, par une ruse de l'histoire, par une grimace même de l'histoire, que ce concept progressiste devient le droit du plus fort, que le devoir d'ingérence ou le droit d'ingérence devient donc le droit du plus fort au profit d'intérêts géostratégiques. Et c'est Poutine qui fait basculer ce droit en l'invoquant pour libérer la Crimée, pour libérer le Donbass et le Donetsk russophone, en accusant Kiev d'être aux mains des néo-nazis. Donc c'est ce virage, ce basculement d'un droit hier progressiste, d'un devoir de la communauté nationale, qui est en train de devenir à nouveau, de redevenir l'arme d'un impérialisme sans aucun autre souci que ses propres intérêts géostratégiques.
Laurence Nardon, il y a aussi peut-être deux singularités de méthode qui peuvent être soulignées dans ce qu'a fait Donald Trump au Venezuela. La première, c'est le caractère éclair, vraiment, de cette intervention, quelques heures, 2h20, si ma mémoire est bonne. Et la deuxième, c'est ce jeu étrange qu'il a fait avec le prix Nobel. Il a inscrit cette opération au Venezuela publiquement, en le revendiquant dans une sorte de course ambitieuse pour le prix Nobel, jusqu'à demander, enfin recevoir la médaille de ce prix qu'il n'avait pas eu des mains de Madame Machado, sa lauréate.
Oui, alors la politique de Trump dans ce second mandat, la politique étrangère, elle suit deux direction. Il y a d'une part cette espèce de prédation totalement décomplexée, c'est ce que vous avez dit sur le pétrole en l'occurrence, mais ça peut être sur d'autres choses, qui est vraiment le retour d'un impérialisme comme on n'en avait pas vu depuis Teddy Roosevelt aux alentours de 1900, enfin voilà. Et puis de l'autre côté, il y a une sorte d'hyperactivité diplomatique, résoudre des conflits. Alors il explique qu'il en a résolu 7 ou 8 dans l'année qui vient de s'écouler. Tout ça, effectivement, pour avoir le prix Nobel. Donc voilà, il y a ce mélange des genres et c'est ça, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Mais j'ajouterais quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et alors, en effet, sur la méthode, il veut bien faire des opérations éclairs, mais pas du tout mettre de boots on the ground, déployer des forces sur place, parce que c'est coûteux. Et ce qui compte avant tout pour lui, c'est l'intérêt des États-Unis. Donc, on peut aller faire des frappes, mais il faut surtout pas rester sur place. Il y a quand même un élément de complexité supplémentaire dû vraiment à la personnalité de Trump que je voudrais ajouter. Donc, on le voit, prédation, diplomatie tous azimuts. Il y a aussi quelque chose qui est presque viscéral chez lui et qu'on voit apparaître de temps en temps, c'est, et il faut quand même le reconnaître, l'envie de protéger des gens qui sont en souffrance. C'est ce qu'il a dit sur le peuple iranien. Il dit, parce qu'en fait, il voit les images à la télé, sur Fox News probablement, des militants iraniens qui se font tabasser, et il a quelque chose de viscéral qui dit, il faut aller les aider, donc il va aller les aider avec une sorte d'action éclair. Je n'invente rien, parce qu'il l'avait déjà fait pendant son premier mandat. Rappelez-vous, c'était en 2018, lorsqu'il y avait eu des frappes chimiques de Bachar el-Assad sur sa population. Vous vous souvenez tous que Barack oui. Obama avait promis d'intervenir dans ce cas-là et qu'il ne l'avait pas fait. Quelques années plus tard, il y avait eu à nouveau des attaques chimiques. Trump a vu les images à la télévision qui étaient horribles, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il a déclenché des frappes aérienne en Syrie pour montrer qu'il n'était pas d'accord. Donc il y a ce côté presque très impulsif de Trump qui, de temps en temps, décide d'aller aider des gens. Dernier point sur le Venezuela, il a également parlé du fait que les gens au Venezuela souffraient. Ça faisait partie des différents prétextes, différentes raisons pour aller kidnapper Maduro.
Alors peut-être en effet, comme vous parliez de Barack Obama et de tous ces précédents, que la discussion qui est la nôtre actuellement sur l'interventionnisme, sur l'ingérence militaire, ne peut avoir de sens qu'à condition d'être remise dans une généalogie, dans une perspective historique sur les prochaines décennies, depuis les dernières décennies, ce que nous allons faire dans les prochaines minutes.
France Culture. Sans préjugés, Nathan Dever.
Alors, d'où vient cette notion de devoir d'ingérence ? Je voulais vous poser la question, Gilles Herzog, parce que, comme je le disais pour vous présenter, vous avez été, depuis ces 40 ans en plus, de tous les combats aux côtés de Bernard-Henri Lévy, dans toute la planète, pour défendre partout ce droit d'ingérence. Qu'est-ce qui a fait que vous avez adhéré à ce concept-là ?
Je suis de la génération de mai 68. Et c'était la génération de la Révolution mondiale, le marxisme triomphait, et nous allions en effet changer la vie, changer le monde. Et puis très vite, cet engagement-là, fait de marxisme et d'idées de la Révolution, capote. En France, en particulier, sous le coup de Solzhenitsyn, des nouveaux philosophes, du génocide, de l'auto-génocide des Khmers rouges, et les mêmes qui étaient marxistes se dépouillent du vieil appareil et deviennent, par remplacement presque, vont s'investir dans l'humanitaire, vont redécouvrir l'humanitaire. En parallèle à la guerre du Vietnam, les Boat People, et la guerre du Biafra qui vient dessus. Donc, il y a toute une génération qui, après avoir été marxiste, devient humanitariste. Et j'appartiens à cette génération. Et donc, ça commence au Biafra, avec Kouchner, ça continue avec les Boat People en mer de Chine, puis c'est en 84, la grande famine d'Éthiopie, qui voit la mobilisation mondiale des artistes américains, etc. C'est We Are the World, l'humanitarisme devient la philosophie altruiste des opinions occidentales. Ensuite, c'est la famine en Somalie, Kouchner porte son fameux sac de riz sur les épaules. Il est la personnalité la plus populaire en France à ce moment-là. Donc,
mais après, ça devient militaire à un moment. C'est ça aussi.
Oui, les Américains prennent la relève en Somalie, et jusqu'à ce qu'il se passe cet incident d'hélicoptère du Faucon Noir, et où ils vont retirer leurs troupes. Et puis ça continue encore, le Rwanda, c'est l'opération turquoise, là les Français ne bougent pas, ou plutôt vont sauver les Hutus, le pouvoir Hutu, génocidaire des Tutsis. Ensuite c'est la Bosnie-Herzégovine, où là encore les intellectuels français, toute l'intelligence française défile à Sarajevo, et pour pousser à l'intervention qui finit par se faire en 95 après les massacres de Srebrenica. Puis, c'est 2001, les Américains libèrent l'Afghanistan des talibans après les Twin Towers. Et ensuite, c'est la Libye, en 2011. Et là, nous jouons, Lévy et moi-même et quelques autres, les mouches du coche, pour qu'il y ait une intervention internationale pour chasser Kadhafi. Elle a lieu. C'est l'acmé du droit humanitaire, du droit d'intervention. On est au top de ça. Sauf que on va chasser, Kadhafi va être chassé, sans troupes au sol, d'ailleurs, des Occidentaux. Mais l'après Kadhafi, évidemment, va être... Bon. Et puis, il y a surtout, le basculement va se faire dans l'autre sens, c'est ce que faisait allusion tout à l'heure, le président Obama ne donne pas suite quand
à la Syrie,
Assad envoie des gaz toxiques, du sarin et du chlore sur la Ghouta, sur l'oasis de la Ghouta, aux portes de Damas, et Barack Obama fait marche arrière, les Anglais font marche arrière, et François Hollande se retrouve tout seul. Résultat des courses, 500 000 morts, 6 millions de réfugiés, un pays détruit. C'est là le basculement où commence le droit. La non-intervention, on repasse de l'humanitaire à la non-intervention.
Et justement, alors, cette généalogie-là, bon, j'imagine que tout le monde est d'accord sur les dates, mais le désaccord que vous aviez tout à l'heure, en parlant de l'Iran, avec Catherine Tricot, trouve peut-être ici sa véritable ampleur. C'est-à-dire que vous disiez en substance que le grand drame de ces dernières années, c'est la non-intervention en Syrie. J'imagine, Catherine Tricot, que la généalogie qu'a rappelé Gilles Herzog, notamment sur les derniers conflits, vous estimez, elle, que c'est plutôt celle-ci qui est problématique.
C'est-à-dire que je partage dans votre généalogie le premier temps qui était une aide humanitaire urgente pour venir en aide à notamment des populations affamées dans une crise humanitaire. Je note que cette aide humanitaire, par exemple, n'a pas eu lieu quand les gens à Gaza étaient en train de mourir de faim. Et que donc, cette aide humanitaire qui était au premier plan, elle est passée seconde dans un moment qui était extrêmement important et que le monde entier a vu et qu'on a laissé faire. Donc, je trouve que cette question de l'aide humanitaire en urgence, moi, je pense qu'elle est nécessaire et qu'on a constitué des organisations internationales qui sont habilitées à intervenir et qu'on a laissé un État, l'État d'Israël, empêcher l'aide humanitaire d'arriver auprès des Gazaouis. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a eu une évolution aussi qui est de penser que finalement, d'abord, l'aide que l'on peut apporter au pays, il y a cette aide humanitaire urgente, mais il y a toute l'intervention politique qui peut s'accompagner. Je parlais tout à l'heure de l'Afrique du Sud. Ce qui s'est produit en Afrique du Sud est aussi le résultat d'une intervention de la communauté mondiale, des peuples, des institutions à tous les niveaux. Le CIO qui avait exclu les sportifs des compétitions, l'ONU. C'est-à-dire que la communauté mondiale peut intervenir et est légitime pour intervenir en soutien à des luttes des peuples. Dernier élément, vous avez parlé des dernières interventions militaires. J'ai dit tout à l'heure que ces interventions des militaires, elles étaient faites jusqu'alors au nom de l'instauration de la démocratie libérale, qu'elles étaient toujours en fait articulées avec une conception de cette démocratie libérale qui allait avec un système économique libéral. Donc, c'était pas neutre. C'est-à-dire, cette dimension de la finalité politique au sens du quel type de développement on imaginait promouvoir n'était jamais dit. On a dépolitisé cette intervention en faisant comme si c'était simplement apporter la démocratie, comme si c'était pas articulé à une idée du développement et que ça s'est traduit à chaque fois par des catastrophes. La Libye est une catastrophe. Je ne sais pas quel est le bilan que M. Kouchner tire de cette action en Libye. Certes, Kadhafi a été tué dans des conditions qui n'honorent pas la France. Je regrette, mais je reste opposée à la peine de mort. Donc, je suis contre les interventions extra-territoriales. Je ne sais pas comment on appelle, il y a un terme. François Hollande s'en était vanté dans son dernier livre.
Opération Homo, je crois.
Les interventions quand un président peut ordonner d'aller exécuter quelqu'un, donner ordre à ses... Je trouve ça totalement scandaleux. C'est ce qui s'est fait en Libye. On a tué Kadhafi. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a totalement déstabilisé ce pays. On en a fait la porte ouverte d'un esclavagisme catastrophique de tous les gens qui cherchent à passer par la Libye pour rejoindre l'Europe. Et mon dernier point sera à ce propos, c'est que, à propos d'aide humanitaire, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on s'est désintéressé des Gazaouis, mais qu'on se désintéresse beaucoup, beaucoup de tous ces gens qui sont en train de chercher à sortir de leur pays pour vivre et qu'on est d'accord pour ériger des frontières, pour les rejeter à la mer. C'est plus de 25 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. C'est chaque année des centaines de personnes qui continuent de mourir pour traverser la Manche. Et ça ne fait plus partie de l'intervention des humanitaires. Donc, je pense que l'humanitaire tel qu'il a été conçu au départ était sur une base trop étroite, qu'il faut politiser les problèmes et qu'il faut les soumettre à des interventions politiques d'ordre international et que l'ONU est le lieu pour la conduite, notamment des interventions qui ne sont pas en premier lieu militaires, mais en premier lieu politiques.
Alors ce qui est très intéressant dans cette généalogie, et j'ai l'impression que vous êtes d'accord sur cet élément du fait qu'on est parti de l'humanitaire vers le militaire, et entre les deux, la question de la politisation, peut-être, Laurence Nardon, que dans la politisation et dans les paradigmes qui ont pu faire cette jonction entre l'humanitaire et le militaire, il y a eu aussi une doctrine, en l'occurrence une doctrine américaine, qui est celle qu'on appelle, en gros, celle des néoconservateurs, et qui a pu jouer un rôle, alors notamment sur une guerre dont on n'a pas parlé, qui est la guerre en Irak, qui était une guerre où Bush promettait d'importer militairement la démocratie, avec les résultats qu'on connaît sur la guerre en Irak et les mensonges qu'on connaît aussi dans les moments qui ont précédé la guerre. Quelle est cette doctrine, Laurence Nardon, et en quoi elle éclaire peut-être notre sujet?
Oui, alors c'est la doctrine portée par les néoconservateurs américains. Donc voilà, j'apporte un autre angle, en effet, à ce débat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a cette idée que la démocratie, alors qui en effet est totalement une démocratie revendiquée comme démocratie libérale, qui est appuyée sur l'économie de marché, etc. Donc là, on n'est effectivement pas neutre. Elle est portée depuis très longtemps. En fait, on peut voir que dès la fin de la Première Guerre mondiale, dès la Première Guerre mondiale, il y a le président Wilson qui souhaite déjà agir pour exporter la démocratie, ce qu'il essaiera de faire par la SDN à laquelle les États-Unis ne participeront pas finalement. Il y a eu ensuite, dans la mémoire américaine, l'exemple de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand on demande aux néoconservateurs aujourd'hui, quand on leur reproche tous leurs échecs, je vais revenir à la définition, mais juste ce point me semble important. Quand on demande aux néoconservateurs aujourd'hui des comptes sur leurs nombreux échecs en Irak, en Afghanistan, en Libye, etc., ils vous répondent « Mais notre exportation de la démocratie a très bien fonctionné. »
En Europe.
En Europe, au Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, grâce au soutien du plan Marshall, nous avons aidé les Allemands à redevenir une démocratie libérale, les Autrichiens, les Italiens, les Japonais, etc. Donc c'est le grand exemple. Bref, donc ça, c'est ce qu'ils disent. Mais sur la naissance du néoconservatisme proprement dit, il faut remonter aux années 60, et ce sont des Américains, des intellectuels au départ, qui étaient plutôt des démocrates, plutôt à gauche, mais qui pensaient que leur parti, la gauche américaine, n'en faisait pas assez contre le communisme, puisque nous avions à l'époque en URSS un régime qui était post-totalitaire après la mort de Staline. Enfin, mettons que c'était pas quand même super ce qui se passait là-bas. Et les Américains dont je parle étaient très anticommunistes. Ils pensaient que la gauche n'en faisait pas assez. Et donc, ils ont basculé vers le Parti républicain, donc le parti de droite, en apportant leur volonté de lutter de manière extrêmement résolue contre l'établissement du communisme partout dans le monde. Et ce courant néoconservateur, donc transfuge de gauche dans le Parti républicain américain, ont ensuite pris plus de place dans le parti sous Reagan, etc. Et nous voici arrivés au 11 septembre et à la domination de ce courant dans l'administration Bush, donc c'est Bush fils, avec cette volonté, mais qui, je pense, était très sincère chez quelqu'un comme Paul Wolfowitz, Richard Perle, etc., au sein de l'administration Bush, d'aller apporter cette démocratie libérale, donc en Afghanistan tout de suite en 2001, après le 11 septembre, en Irak en 2003. Et ce qui s'est passé de terrible, c'est que je pense qu'ils avaient vraiment un désir assez sincère d'apporter cette démocratie. Ils pensaient qu'ils pouvaient y arriver, faire de l'Irak la Suisse du Moyen-Orient, disaient ceux qui se moquaient d'eux. Et en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'ils se sont fait blouser. Ils se sont fait avoir par d'autres membres de l'administration Bush, dans les mêmes équipes de la Maison-Blanche. Quelqu'un comme, par exemple, le vice-président Dick Cheney, qui lui était un cynique, qui voulait le pétrole et qui s'en fichait complètement de la démocratie. Et donc, ils se sont fait exclure petit à petit des cercles de décision. Et c'est ce qui explique, complètement même, est-ce qu'ils auraient pu y arriver de toute manière ? Ça, il faudrait une uchronie pour le savoir. Mais c'est ce qui explique que finalement, en Afghanistan et en Irak, rien n'a fonctionné.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Alors, vos éclairages, Laurence Nardon, sur la doctrine des néoconservateurs et les causes de l'échec et les désaccords au sein des administrations américaines éclairent peut-être le désaccord que vous aviez juste avant, Catherine Tricot et Gilles Herzog. Gilles Herzog, vous n'êtes pas néoconservateur, ce n'est pas votre doctrine, mais que répondez-vous à l'objection de Catherine Tricot sur la question de dire « ces guerres n'ont pas accouché de démocratie, par exemple, en Libye ».
Ça n'empêche que renverser Kadhafi était totalement légitime de la part du peuple libyen. C'est le peuple libyen qui à travers des gens comme nous et d'autres, appelait à l'aide. Ça n'a pas été une intervention canonnière décidée par l'Occident. C'était tout de même le désir des Libyens eux-mêmes. Donc, se débarrasser de Kadhafi était un préalable. Que ensuite les mêmes n'aient pas donné suite à ce qui s'appelait à l'époque le nation building, c'est-à-dire l'aide à la formation d'une société civile qui avait été écrabouillée par Kadhafi. En effet, il n'y a pas eu de nation building et la Libye a plongé dans la division et le chaos. Ça n'était pas faute que nous ayons essayé de qu'il en soit autrement et que les mêmes qui avaient, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et les pays arabes, qui avaient fait partie de la coalition pour renverser Kadhafi, les mêmes se soucient de la société libyenne post-kadhafienne. Et nous avions eu l'idée, Bernard-Henri Lévy et moi-même, de faire une... puisque Kadhafi avait détruit toutes les structures institutionnelles, de faire une espèce d'énarque, d'ENA, l'École nationale d'administration franco-arabe, à Benghazi. Nous sommes allés voir un certain nombre de gens ici. Il fallait remettre de l'administration, rebâtir une administration, rebâtir un État, etc., et le faire un peu en concurrence avec les universités américaines du Caire et de Beyrouth, et de faire un ENA franco-libyen. On nous a, Sarkozy et d'autres, nous ont dit c'est formidable, quelle idée, etc. Et rien n'a été fait, rien. Mais nous n'avions pas les bons moyens. Nous avions été les mouches du coche pour qu'il y ait une intervention militaire, mais nous n'avions pas les moyens de faire grand-chose pour le peuple libyen. Une fois que Kadhafi n'était plus là, ce n'était pas dans notre ressort. Et en effet, la Libye a sombré dans le chaos.
Catherine Tricot.
Il y a quand même une assurance qu'on entend dans votre propos 15 ans après qui me stupéfie. C'est-à-dire, vous pensiez qu'il fallait faire un ENA.
Oui.
Mais enfin, écoutez.
Par le haut.
Mais de quoi je me mêle ? Non mais sérieux quoi.
Je peux rester chez moi.
Non mais oui, mais ce que je veux dire, c'est important de se dire que c'est aux Libyens de décider de la Libye.
Ils étaient tout à fait d'accord.
Ils étaient tout à fait d'accord. On nous raconte aujourd'hui, à propos de l'Iran, qu'il y en a qui sont tout à fait d'accord pour que le fils du Shah revienne. Les histoires de ceux qui sont tout à fait d'accord, c'est toujours facile de les raconter. Là, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce se soit manifesté de manière évidente le désir de voir la France s'installer en Libye et de voir les énarques venir. Non, mais de voir les énarques français et les intellectuels français venir expliquer l'avenir de la Libye. Je suis stupéfaite de votre non.
Reconstruire l'État libyen
Il fallait très probablement reconstruire l'État libyen. C'était pas forcément à partir des modèles tels que nous l'avions construit en France qui pouvaient se transformer. Et si ça vous ennuie pas, j'ouvre cette parenthèse. Elle m'a stupéfait que 15 ans après, vous n'ayez pas un regard, je dirais légèrement décalé.
Pourquoi les valeurs universalistes ne s'appliquent
pas. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, madame, à propos de ce précédent.
C'est pas du colonialisme.
Je n'ai pas parlé de colonialisme, ça n'a pas été mon terme, ça a été juste la suffisance que je trouve tout à fait étonnante.
C'est des universités à l'étranger.
Si ça ne vous ennuie pas, je voudrais revenir sur le propos de madame à propos de cet exemple historique fondamental qui est celui qui s'est produit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui, pour les Américains, d'une certaine manière, fonde la légitimité de leur intervention. Ils considèrent avoir, alors évidemment on est dans une situation un peu particulière, puisque c'est quand même une guerre mondiale dans laquelle ils étaient engagés, on n'est pas tout à fait dans le cadre des interventions dont on vient de parler. Mais moi ce qui m'intéresse de relever, c'est qu'il y a un pays qui n'a pas voulu être libéré par les Américains. Les Américains sont intervenus, mais le discours national qui a été construit par le général de Gaulle et les FTP et la résistance communiste et les résistants de l'intérieur, c'est la France qui se libère par elle-même. Et je pense que c'est tout à fait fondamental. Ça change radicalement les possibilités du futur. C'est-à-dire que cette construction de la compréhension d'un événement, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la libération de la France. Est-ce que la France a été libérée par le débarquement anglo-américain ou est-ce qu'elle a été libérée par elle-même, comme pour reprendre l'expression du général de Gaulle, avec l'appui des Américains et des Anglais, permet à la France de se penser comme un État capable de penser son indépendance et son propre développement. Et c'est une situation, par exemple, qui est tout à fait différente de l'Italie, qui se trouve être libérée par le débarquement anglo-américain et qui, du coup, d'ailleurs, ne se pense pas de manière autonome par rapport à la puissance américaine. Et d'ailleurs, qui va accepter que le commandement armé s'installe en Italie, qu'il y ait des bases américaines qui soient en Italie, et qui d'ailleurs continue d'être un pays extrêmement extrêmement lié à la vision américaine. Et c'est vrai, la France se distingue par rapport aux autres pays européens, aussi parce qu'elle a été celle qui se pense libérée par elle-même. Je renvoie à ma première citation, « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Et ça, ça change tout. Ça change la possibilité de penser. Ça change la possibilité de s'émanciper. Ça change la possibilité de la liberté, de construire son destin. Les Français, par cette construction... Ça n'a pas été le cas, mais écoutez, les gaullistes et les communistes pensent qu'ils ont libéré la France avec l'appui des Américains.
C'est un mythe qui a été construit.
Si vous voulez, c'est un mythe qui est un mythe extrêmement important, au sens où c'est celui qui permet de penser l'autonomie. Et donc, penser qu'on va libérer les peuples, je regrette, mais c'est les mettre dans la dépendance, c'est leur ôter la possibilité de leur indépendance.
Moi, ce que je trouve très, très intéressant là, dans le tour que prend la discussion, c'est que je pense que vous êtes l'un et l'autre internationalistes en un sens, et chacun d'une façon différente. Et justement, peut-être que ça éclaire une forme d'équivoque philosophique sur ce que c'est que le cosmopolitisme ou l'internationalisme. Alors, je renvoie à un texte qui est majeur, l'essai philosophique sur la paix perpétuelle de Kant en 1795, où il définit cette idée d'une paix perpétuelle, en donnant deux idées qui sont contradictoires, mais qui sont toutes les deux présentes dans le texte kantien. La première, c'est que la paix perpétuelle ne peut advenir qu'à condition que la seule constitution qui soit répandue mondialement soit la constitution républicaine. La république est la condition de la paix. Mais la deuxième, et c'est intéressant aussi, c'est que Kant soutient que pour que cette paix perpétuelle advienne, eh bien, aucun État, je cite l'article 5 de la première partie, aucun État ne doit s'ingérer de force dans la Constitution ni dans le gouvernement d'un autre État. Donc les deux idées sont présentes, je dirais vos deux perspectives sont présentes en puissance, en germe, dans le texte kantien. La question que je voulais vous poser dans cette logique, Laurence Nardon, c'est à partir de cette doctrine néoconservatrice, mais plus généralement de la position américaine, est-ce qu'on n'assiste pas aussi bien chez un Trump, ce que vous avez dit sur sa compassion, entre guillemets, par rapport aux images à la télé, mais que dans toute l'histoire américaine, à une tension entre l'internationalisme et tout simplement l'impérialisme?
Ah bah oui, cette tension, elle est permanente dans l'histoire américaine, et on voit chaque courant prendre l'ascendant l'un sur l'autre. Alors là, il est vrai que dans l'après-guerre, et puis surtout depuis les années 90, lorsque l'URSS avait disparu, c'était plutôt une présence au monde active et qui se voulait bénéfique, même si il y avait une certaine dose d'hypocrisie dans l'affaire. C'était plutôt cette partie-là qui l'emportait. On voit bien avec Trump, mais en réalité, depuis Obama, qui a une très grande envie des dirigeants américains de se retirer des affaires du monde. On l'a vu avec Obama en Syrie, on en a parlé tout à l'heure.
Vers la Chine.
Oui, ça aussi. Mais ce que je veux dire de plus important, c'est que depuis donc un petit peu Obama, et puis surtout Trump, on a des États-Unis qui ne veulent plus se charger d'apporter le projet démocratique dans le monde. Et ça, c'est vraiment une rupture. Alors, est-ce qu'ils étaient censés le faire ou pas? Je laisse le débat de côté. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons aujourd'hui une Amérique qui ne souhaite plus jouer ce rôle d'apporter la démocratie au monde. Alors, est-ce que ça reviendra certainement dans l'avenir? Parce que je pense que rien n'est jamais acté pour toujours. Mais c'est vraiment ce que nous constatons aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que l'Amérique de Trump 2 n'est pas présente au monde, mais elle l'est de manière prédatrice. Et plus du tout, alors peut-être angélique, comme elle a pu l'être à l'époque des néoconservateurs.
Alors, il reste une minute. Est-ce que quelqu'un veut envisager ce que peut être l'avenir en quelques mots de cet universalisme?
Moi, je veux bien dire un mot, mais vraiment 30 secondes. Ce que je pense, c'est que l'émergence, par exemple, des COP, est pour moi un modèle qui permet de penser... les intérêts,
qu'est-ce que c'est que
les coopératives, les COP 21
sur l'environnement.
C'est-à-dire des enjeux qui sont des enjeux universels qui sont négociés entre États et ONG. Et ça me paraît être un modèle possible pour faire vivre l'articulation entre les peuples et les intérêts universels.
Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges, où les désaccords cachaient peut-être aussi des points d'origine doctrinaux qui pouvaient s'entendre, ou non. Merci à Aline Biette pour la préparation de l'émission. Merci à Swad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application de Radio France. À très bientôt.